Alors, chose promise, chose due, la dernière fois, nous avons parlé donc de la sanctification de l'âme. Un petit peu avant, nous avions parlé de la sanctification du corps. Il nous reste maintenant à parler de la sanctification de l'esprit. Et pour ce faire, bien sûr, on va revenir sur notre texte d'introduction, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Ces deux versets qui ont été comme un fil conducteur, eh bien, au travers de cette série d'enseignements sur la sanctification. Je rappelle que c'est le thème, eh bien, que Dieu a déposé sur mon cœur pour, eh bien, cette église d'Istres afin que nous puissions aller de l'avant. D'ailleurs, c'est clair, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ni présentement et encore moins lorsqu'il sera sous les nuées et qu'il viendra prendre son église. Alors nous lisons ensemble ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens qui se trouvaient donc dans la ville de Thessalonique. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc on est clair sur le sujet. Nous sommes donc des êtres humains et l'être humain est composé de trois parties: le corps, l'âme et l'esprit. Et j'avais expliqué la dernière fois que bien que l'esprit et l'âme sont intimement liés et même difficilement dissociables, il ne reste pas moins deux parties bien distinctes de l'être humain. Et justement, ce matin, nous allons nous attarder sur cette partie, eh bien, de notre être intérieur, c'est-à-dire l'esprit humain. Alors, la question s'impose, la question est évidente: qu'est-ce que l'esprit? Eh bien, l'esprit humain, c'est ni plus ni moins le souffle même de Dieu. Le souffle de Dieu qui permet à l'homme de devenir un être vivant. On l'avait lu la dernière fois dans Genèse chapitre 2 et le verset 7. Je vous propose de le relire, ne le cherchez pas, il est devant vos yeux. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà la première partie de la création de l'homme. Dieu vient par sa main toute puissante et de la poussière de la terre va former un corps, une enveloppe. Mais une deuxième partie, pour former l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et alors l'homme devint un être vivant. C'est ce souffle-là qui est divin, qui est d'ailleurs éternel, et qui a permis à notre être d'être animé. C'est notre esprit, d'ailleurs, qui nous rend conscients de nous-mêmes, ainsi que le monde qui nous entoure. L'esprit humain, il se caractérise par quoi? Eh bien, il se caractérise par notre intellect, notre intelligence, par sa capacité à pouvoir penser, à réfléchir. J'espère que vous réfléchissez ce matin à ce que je suis en train de dire. C'est notre esprit qui nous permet, eh bien, de pouvoir réfléchir, de pouvoir méditer, de pouvoir comprendre et même d'arriver à concevoir, même à créer certaines choses. C'est ce qui d'ailleurs distingue l'homme de tout le reste de la création terrestre. On n'a jamais vu des plantes commencer à réfléchir. Ou bien, si vous en connaissez, venez me voir à la fin de la réunion. Encore moins des animaux. Se concerter pour créer une association culturelle ou cultuelle. Mais nous le pouvons, parce que nous avons été créés à l'image, eh bien, de notre Créateur. L'homme possède un esprit immortel, qui d'ailleurs retournera à Dieu, son Créateur, après la mort du corps. Et là aussi, nous l'avions lu, il me semble, la dernière fois, ou peut-être pas, Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 9. C'est Salomon qui s'exprime et qui dit, Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 9, mais je vais le lire, ne le cherchez pas. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. À un moment donné, lorsque nous expirons, notre corps vient à retourner à la poussière, il se décompose, mais notre esprit, à ce moment, à cet instant même, retourne à Dieu. Et c'est uniquement lorsqu'on expire, on rend notre dernier souffle, et c'est bien le cas de le dire, soit nous allons dans le paradis de Dieu, ou soit nous commençons déjà à goûter, eh bien, ce lieu de tourment, eh bien, qui est au départ réservé pour le diable et pour ses anges. De la même manière que l'homme appréhende le monde physique par son corps physique, Il nous faut comprendre ce matin que l'homme appréhende le monde spirituel par son esprit. C'est par l'esprit de l'homme, eh bien, que nous pouvons prendre conscience de Dieu et même des choses de Dieu. C'est par notre esprit que nous pouvons développer finalement une communion personnelle avec Dieu. C'est d'abord par notre esprit que l'esprit de Dieu va entrer en communication, en contact. Le point de contact de Dieu et l'homme, c'est par notre esprit. C'est pour ça que Paul a dit dans l'une de ses épîtres, Romains chapitre 8, verset 16, cette vérité suivante. L'esprit lui-même, et là il est fait mention du chrétien, l'esprit lui-même, l'esprit de Dieu, lui-même rend témoignage à qui ? À notre corps ? À notre âme ? Non, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus aussi a dit dans Matthieu chapitre 26 et le verset 41, cette réalité. Il nous dit à tous d'ailleurs ce matin, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il va expliquer que l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. L'esprit, notre esprit sera toujours disposé à pouvoir être en contact, en communion. Et nous en tant que chrétiens, oui notre esprit est disposé. Mais là où le bât blesse, c'est au niveau de notre chair, qui malheureusement a été corrompue par le péché, cette chair qui est faible. Il faudrait vraiment qu'on souligne l'importance de l'esprit par rapport à la chair. Pour vous donner une image, et pour répondre encore à cette question, qu'est-ce que l'esprit ? Allez, je vais vous donner une image très, très simple. J'arrive devant ma boîte aux lettres qui est à l'extérieur, et je prends en main un courrier que j'ai reçu d'une tierce personne, peu importe. Et ce courrier, bien sûr, bien évidemment, je l'ouvre. À l'intérieur, je sors une lettre sur laquelle est inscrite une information. Jusqu'ici, tout va bien. Vous comprenez ? Faisons un parallèle. L'enveloppe, c'est notre corps. La lettre que je sors dans l'enveloppe, c'est mon âme. Mais par contre, l'écriture qui se trouve sur ce courrier, c'est l'esprit. Et soyons honnêtes, qu'est-ce qui est plus important ? L'enveloppe, la lettre ou ce qui est écrit dessus ? Ce qui est écrit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, recevoir une enveloppe avec un courrier et donc un papier sur lequel il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien de plus frustrant. Ce qui va nous intéresser, au-delà de l'enveloppe, qui est importante ? Il y a de belles enveloppes, on est capable de faire des grandes, belles enveloppes, etc. Ce qui est important, c'est de voir ce qui est écrit. C'est ça qui va nous communiquer des émotions. C'est ça qui va nous réjouir ou même nous attrister. En parlant des impôts. Vous voyez, comprenez ? Donc c'est ce qui est écrit. Et pour moi, on peut faire un parallèle. L'écriture, c'est l'esprit. D'où l'importance de pouvoir considérer cet esprit que d'ailleurs le Seigneur lui-même, Dieu lui-même chérit au-dedans de nous. L'esprit est, comme dit la Bible, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, est ce qui est nécessaire pour réellement servir Dieu. Vous savez qu'on peut servir Dieu de différentes façons. Mais regardez ce qu'il est dit, et c'est étonnant. Quand je préparais ce message, je découvre ce passage, Romains chapitre 1, verset 9. Regardez. Ça, il faut le chercher. Hein. Si vous avez le temps, cherchez-le. Romains chapitre 1, verset 9. L'apôtre Paul qui parle et s'adresse aux chrétiens qui se trouvent à Rome. Et il dit, Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Les mots ne sont pas anodins. Même, excusez-moi, les virgules, les points dans la Bible ne sont pas anodins non plus. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il dit « Dieu que je sers en mon esprit ». Frères et sœurs, il y a trois façons de pouvoir servir Dieu. Je peux servir Dieu d'une manière charnelle. C'est-à-dire que je sers Dieu par ma chair. Et là, mon service sera charnel. Je peux aussi servir Dieu avec mon âme. Et là aussi, ça pose problème parce que je vais servir Dieu suivant l'humeur. Mon humeur, suivant mes émotions. On l'a vu la dernière fois, l'âme, c'est le siège des émotions. Alors quand tout va bien, c'est bon, je suis au rendez-vous. Mais quand tout va mal, il n'y a plus personne. Mais lorsque je sers Dieu en esprit, quand je sers Dieu par mon esprit, quand je sers Dieu avec mon esprit, et surtout quand cet esprit est en connexion avec l'esprit de Dieu, alors là, mon service, il est spirituel. Et vous comprenez bien que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions exercer un service spirituel. Et quand notre service est spirituel, Dieu est pleinement honoré. Nous sommes dans la pensée de l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans la pensée même de Dieu. C'était important de pouvoir bien le souligner. Tout cela pour dire que notre esprit revêt une grande importance et qu'il est primordial, vous l'avez compris, de permettre à Dieu de sanctifier notre esprit, c'est-à-dire de le séparer de toute forme de souillure, que nous permettions à Dieu de purifier notre esprit de toute forme de souillure. Et tout comme la dernière fois, j'aimerais bien vous exposer cette fois-ci juste deux éléments, et on n'ira pas plus loin, deux éléments qui peuvent polluer notre esprit. Est-ce que vous voulez les connaître ? Quelqu'un aurait dit non, je l'aurais dit quand même. Hein ? Je n'ai pas le droit de retenir ce que Dieu place sur mon cœur. Premier élément, ce sont les faux raisonnements. Certaines personnes nourrissent de faux raisonnements concernant leur propre personne. Ils sont constamment en train de se rabaisser, de se dénigrer. Ils ont finalement une mauvaise image d'eux-mêmes. Et ces personnes peuvent être là ce matin. Vous savez, on peut avoir des années de conversion et être sincère vis-à-vis de Dieu. Pourtant, laisser de tels éléments polluer notre esprit et se dénigrer, avoir une fausse humilité et se considérer comme moins que rien, je ne suis rien, je suis nul, je suis... Comprenez que ces choses, il faut pleinement s'en écarter. Parce que vous le savez comme moi, nos comportements sont en étroite relation avec ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est vrai ou c'est pas vrai ? En général, nos pensées vont précéder toujours nos actions et même nos paroles. Il y a ce passage dans la Bible qui est parlant, c'est la première partie du verset 7 du chapitre 23 du livre des Proverbes. Pour faire plus simple, Proverbes chapitre 23, verset 7. La Bible dit, première partie de ce verset, « Il est comme les pensées de son âme. » J'ai mis cette expression, « Dis-moi ce que tu penses de toi et je te dirai qui tu es. » Juste un exemple. Il y a un moment donné, Dieu a voulu utiliser un jeune homme dans la Bible. Et ce jeune homme, vous le connaissez, c'est Gédéon. Et à un moment donné, Gédéon, il est interpellé par un ange, l'ange de l'Éternel, qui est là pour moi une apparition du Christ dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même lui dit, je suis avec toi, vaillant héros. On peut le lire d'ailleurs dans Juges chapitre 6, versets 11 à 12. On va le lire, Juges 6, versets 11 à 12. « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébène d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Waouh, c'est bien. Un matin, vous levez, un ange vient dans votre chambre et commence à vous appeler vaillant héros. C'est pas beau ça ? Vous savez, Dieu, il ne flatte personne. Hein ? Ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Mais moi, je suis estomaqué quand on entend la réponse, finalement, de ce même jeune homme, donc Gédéon, on le découvre là, un peu plus bas, au verset 15, Juges 6, verset 15. Gédéon répond à l'ange de l'Éternel, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Et je le vois en train de fouiller ses poches. « Ma famille est la plus pauvre. » Regardez les superlatifs qui sont utilisés. Hein. « Est la plus pauvre en Manassé. » Je suis d'ailleurs le plus petit dans la maison de mon père. Et il aurait pu rallonger la liste. Cette mentalité qui fait qu'on va, on va se dénigrer, cette mentalité défaitiste, Gédéon finalement pensait mal. Il y avait quelque chose à rectifier dans son esprit. Et d'ailleurs, c'est pour cela quelque part que, en l'abordant, l'ange de l'Éternel, l'a appelé vaillant héros. Dieu était en train, par sa parole, parce que c'est par la parole de Dieu, que Dieu va transformer nos mentalités, va transformer notre esprit. Nous sommes renouvelés jour en jour au contact de la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans l'épître aux Timothée, tout est sanctifié par la prière et par la parole. hier avec les ados qui étaient là présents, on s'est engagé, on a fini le moment, c'est un moment formidable. Plusieurs tour à tour des ados se sont levés, pour ceux et les animateurs qui étaient là, se sont levés spontanément, ont donné des témoignages, des choses qu'ils ont vécues avec Dieu durant la semaine. Mais mieux encore, une petite a levé la main. Et parce qu'on parlait, on a partagé sur le thème de la Bible, comment la lire, comment, etc., d'où est-ce qu'elle vient, etc. À un moment donné, elle a proposé eh bien, qu'on puisse tous étudier l'épître de Jacques. Et il y en a 5 chapitres. Un chapitre par jour. Et apprendre à méditer cette parole. Plus je vais lire la parole de Dieu, plus je serai... Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Eric. Est-ce que c'est le pasteur qui l'a fortifié? Est-ce que c'est X ou Y? Personne. Toute la gloire revient à Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand il, dans son désespoir, dans ses moments difficiles, parce qu'on peut être chrétien et puis connaître des moments de dépression, quand on a assez d'intelligence pour plonger nos regards dans la parole de Dieu, elle est capable de nous transformer en retour. Elle nous revigorait. À mon frère, il m'avait raconté, il m'a dit mot par mot, le Seigneur lui parlait au travers de tout ce chapitre 100, 143 hein, du livre des psaumes. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Gédéon avait besoin d'entendre qu'il était un vaillant héros. Il avait besoin d'entendre que Dieu était avec lui. C'est pour ça qu'il pensait mal, en énumérant peut-être des choses qui étaient vraies. Peut-être était-il le plus pauvre. Quoique, quand on regarde le contexte, il n'était pas si pauvre que ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il devait considérer, c'est la parole qui est sortie de la bouche de l'ange de l'Éternel. Je suis avec toi. Vous savez, si vous avez Dieu avec vous, vous avez tout. Et vous êtes sûr d'être victorieux. Frères et sœurs, si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, si nous continuons à nous dénigrer, si nous nous méprisons, permettons à Dieu aujourd'hui même de sanctifier notre esprit de tout faux raisonnement qui au final nous empêche d'entrer dans les plans et dans les desseins que Dieu a formés sur nos vies. Abandonnons ces faux raisonnements. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une belle créature. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Un autre exemple, un autre faux raisonnement, cette fois-ci, je vais parler de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et je découvre avec vous dans le psaume 139 que lui aussi avait besoin de laisser Dieu sanctifier finalement ses pensées. Qui n'a jamais lu le psaume 139 ? Levez la main. Voilà, eh bien, lisez ce psaume 139, il est magnifique. David, d'une manière exceptionnelle, rempli du Saint-Esprit, va décrire l'omniscience, la toute-puissance de Dieu. Il dit, quand je me lève, quand je m'assieds, Seigneur, tu sais tout, il sait tout d'avance. Et à la fin, il se voit poussé, eh bien, inspiré pour dire les choses suivantes qu'on va lire ensemble. Psaume chapitre 139, les versets 21 et 22. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Mais Seigneur, je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. David était sincère. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, je l'ai déjà dit. Et il avait une indignation, une profonde indignation contre tout ce qui était mal, tout ce qui était injuste. Et il était sincère. Mais voyez-vous, on peut être sincèrement dans l'erreur. David était en train de faire un amalgame entre le fait de haïr le mal et le fait d'haïr son prochain. L'exemple de David, on peut aussi l'associer avec ses deux disciples, Jacques et Jean. Rappelez-vous cette histoire, quand Jésus est arrivé sur les hauts plateaux de la Samarie, et il arrive dans un village qui ne l'accueille pas, et pour cause, de toute façon les Samaritains n'avaient pas de relation directe avec les Juifs. C'était deux peuples qui se méprisaient. Et toutes les auberges étaient fermées pour accueillir le Seigneur Jésus. C'est alors que Jacques et Jean se sont retournés vers Jésus. Ils lui ont proposé une proposition qu'on peut lire ensemble dans Luc chapitre 9, versets 54 et 55. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descende du ciel et les consume ?» Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Autrement dit, Jésus s'est retourné et il a voulu rectifier le tir. On pourrait reprendre ce verset 55 et dire « Jésus se tourna vers eux et les sanctifia. » Et les sanctifia comment ? Toujours avec la parole. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et on a besoin, même nous aussi chrétiens, de pouvoir rectifier le tir. Il peut nous arriver de ressembler à David et Jacques et Jean. et de haïr, c'est vrai, des personnes qui ouvertement méprisent Dieu. Il y a peut-être même des chrétiens ici présents qui sont en conflit avec même des membres de leur propre famille, tout simplement parce que ces derniers même prononcent des paroles méprisantes à l'égard de Dieu. Mais on a besoin de comprendre la pensée de Dieu. On a besoin de comprendre comme Dieu pense. Vous savez, s'il y a une personne à haïr, c'est bel et bien le diable. Mais de jamais haïr son prochain, quel qu'il soit. Même à l'égard de nos ennemis, Dieu nous demande de les aimer. Et mieux encore, de pouvoir prier pour eux. Mais pas de les haïr aucunement. Vous savez, bien souvent, on oublie d'où est-ce que le Seigneur est venu nous chercher. Quelquefois, on a été pire que ces personnes qui pourraient jusqu'à maintenant prendre le nom de Dieu en vain. Dieu nous demande de les aimer. Dieu nous demande de prier pour ces personnes. Jusqu'à ce que le Seigneur les éclaire, comme il l'a fait un jour pour nous, on a besoin de rectifier le tir. Et d'ailleurs, pour revenir à l'exemple de David dans le psaume 139, on va y revenir, psaume chapitre 139, et juste les deux versets suivants, c'est-à-dire psaume 139, versets 23 et 24, regardez ce qu'il est dit. David qui dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Juste après qu'il ait dit « Seigneur, ne devrais-je pas haïr ceux qui me haïssent ?» Juste après avoir dit « Je hais d'une parfaite haine ». Tiens, je me pose la question, existe-t-il une parfaite haine? On parle d'une saine jalousie, mais c'est en rapport avec Dieu. Mais je n'ai jamais vu une parfaite haine. Il y a haine ou pas haine. Il y a haine et amour. Et nous sommes le peuple de l'amour. Nous sommes le peuple de Dieu. Et la Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour ». Et je veux croire que David, rentrant lui-même, réalisant ce qu'il venait de dire, il a rectifié le tir. Et regardez ce qu'on lit ensemble. « Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. » Autrement dit, connais mes pensées, connais mon esprit. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et je le dis, c'est par la lecture de la parole de Dieu, pas seulement la lecture, la méditation de la parole de Dieu, que notre cœur peut être rectifié, que nos raisonnements peuvent être rectifiés, que notre esprit, notre mentalité sera pleinement changée. Et je le dis, et ce n'est pas sur mes notes, mais Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, parlant de la parole de Dieu, qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est capable de séparer jointure et moelle, mais elle est capable de faire autre chose. Séparer l'âme et l'esprit. Vous savez, ces deux parties indissociables, très difficiles à expliquer. Eh bien, la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit. On a besoin de séparer quelquefois l'âme et l'esprit, nos émotions, de notre volonté. C'est pour ça qu'on lit à plusieurs reprises dans le livre des psaumes, donc David ou d'autres psalmistes qui vont dire « J'impose à mon âme ». Qui parle ? C'est l'esprit humain qui impose à son âme. Il faut que l'esprit, notre esprit, puisse dominer notre âme et notre corps et notre chair. Si notre chair a le dessus sur l'esprit, on aura des comportements charnels. Mais parce que nous avons été renouvelés dans notre être intérieur par l'Esprit de Dieu, nous sommes en position de force et par notre esprit, imposer à notre âme et à notre corps de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin ? Ce n'est pas trop difficile, peut-être pour certains c'est même incompréhensible, mais Dieu vous éclairera. Les faux raisonnements. Seigneur, rectifie mon cœur, sonde-moi, connais mon cœur et mes pensées. Aide-moi à enlever toutes ces formes de pollution dans mon esprit. J'ai parlé de deux éléments. On va s'en arrêter sur ce premier point, les faux raisonnements. J'aimerais parler maintenant des mensonges du diable. Parce que là aussi, c'est un élément à rejeter, bien sûr, de notre esprit. Vous savez, c'est par notre esprit que le diable essaiera de nous tenter. Quand il vient à nous, il vient quelquefois en rugissant comme un lion, mais quelquefois, quand il vient à nous, c'est par des petites pensées subtiles, telles des mouches. Vous savez, Belzébul, l'un des noms du diable, vous savez ce que ça veut dire ? Prince des mouches. Quand une mouche vient vous embêter, c'est embêtant ça. Quand elle vient se tomber dans notre soupe, c'est encore plus embêtant. On est là, on fait des gestes, tout ça, etc. Elle tourne, noyée. C'est pareil pour les pensées du diable. le diable, le prince des mouches, les envoie pour nous influencer, pour nous troubler. Le diable, il fait par toutes sortes de suggestions. Il essaye de nous troubler dans notre esprit. Il nous insuffle l'inquiétude. Il nous insuffle la peur, le doute, même la confusion. On a l'exemple d'Ève. Ève qui était dans cette dispensation de l'innocence. Le diable subtilement est venu avec juste une question. Dieu a-t-il réellement dit ? Insuffler le doute, insuffler l'inquiétude, insuffler finalement le mensonge dans l'esprit d'Ève. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Le diable sait très bien que s'il réussit finalement à embrouiller, à tromper, à maîtriser notre esprit, eh bien, quelque part, il n'est pas loin de dominer sur tout le reste de notre être. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si le diable a notre esprit, s'il nous a convaincus d'une chose, tout le reste va suivre. Le corps et l'âme. On a l'exemple de Judas. Judas, qui était quand même l'un des disciples choisis par le Seigneur Jésus. Jean chapitre 13 et le verset 2 nous dit une chose. Il nous est dit, et on l'a lu, il me semble, dimanche dernier, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Au cœur même de cette fête de la Pâque. Alors que Jésus, comme je l'ai dit dimanche dernier, a inauguré tout à nouveau une autre commémoration, celle de la Sainte-Cène que nous prenons dimanche après dimanche. Il nous est révélé ce qui était dans l'esprit de l'un des disciples de Jésus-Christ. J'ai envie de dire l'un des disciples rapprochés de Jésus-Christ. Il y avait d'autres disciples, mais il est fait mention de ces 12 que Jésus a choisi pour les avoir avec lui. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Autrement dit, le diable avait déjà, sans que personne le voie, sans que les autres disciples ne le voient, il avait déjà semé dans l'esprit de Judas le dessein de livrer le Seigneur Jésus. Vous savez, à ce stade-là, Judas était déjà conditionné à trahir Jésus. Il était déjà trop tard. Il a laissé le diable semer dans son cœur ou dans son esprit de la mauvaise graine, de la mauvaise semence. Et cette semence, il faut le savoir, tôt ou tard, elle finit par pousser. Prenez l'exemple, jeter quelques graines, même que vous ne l'arrosiez pas avec la pluie naturelle, ça va finir par pousser. C'est une question de temps. Et on le voit d'ailleurs dans ce même chapitre, Jean chapitre 13, cette fois-ci le verset 27, un peu plus bas. On est toujours dans le même contexte, dans cette chambre haute. Ils vivent la fête de la Pâque. Et la Bible nous dit que dès que le morceau fut donné, Jésus qui tend la main et trempe le pain dans cette sauce qui était là et le donne à Judas, la Bible nous dit « Satan entra dans Judas ». Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Je ne sais pas si on réalise ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Excusez-moi, au beau milieu du culte, il vivait un culte. Le diable a pu arriver à s'infiltrer dans un des disciples de Jésus. On a besoin de réfléchir. Vous croyez que le diable, il a un lieu privilégié pour s'accaparer et prendre possession de nos corps ? La circonstance qui lui permet d'entrer, c'est lorsqu'on laisse entrouvertes nos pensées, lorsqu'on laisse ces mêmes pensées descendre 30 cm plus bas dans notre cœur. Voilà ce qui arrive. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Aux yeux de tous, bien que les disciples n'ont pas bien compris ce qui s'est passé, le diable s'est invité dans ce rassemblement qui était appelé à être saint, au beau milieu de la fête de la Pâque. Le diable s'est infiltré parce que malheureusement, il y avait une porte entrouverte. C'est pour ça, dans notre esprit, on a besoin de réclamer le sang de Jésus afin que nos pensées soient tout à la gloire, tout à la gloire de Dieu. Mais béni soit Dieu, Satan a peut-être surpris les disciples, mais il n'a pas surpris le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que tu fais, fais-le promptement. On ne sait pas si Jésus à ce moment-là s'est adressé à Judas ou bien s'il s'est adressé à Satan qui est entré en Judas. À mon sens, il s'est adressé à Satan. Ce que tu fais, fais-le promptement. Parce que là, Judas n'était plus maître de lui-même. Vous savez, on peut être utilisé par le diable consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui volontairement se sont donnés au diable pour être des agents du diable. Et quelquefois, ils viennent même s'infiltrer dans les églises. Mais il y en a qui sont utilisés par l'ennemi inconsciemment. Alors là, c'est peut-être même pire. Et on a besoin de discernement. Vous savez, on peut la faire aux autres, mais on ne peut pas la faire au Seigneur Jésus. Ce que tu fais, fais-le promptement. Comme si Jésus lui dit, allez, je te lance au défi, vas-y. Et comprenez la haine qu'il y avait dans le cœur, qu'il y avait dans l'être du diable. Il a préparé cette potence, cette croix, qui normalement devait liquider notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le juste, parmi des injustes, crucifié entre deux brigands. Quelle injustice! Mais nous le savons et nous l'avons rappelé dimanche dernier. Jésus-Christ est ressuscité. Et au travers de cette méchanceté, le diable n'a fait qu'une seule chose, c'est justement mettre encore plus en évidence la grande victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne pouvait pas rester au tombeau, il est vivant au siècle des siècles, et maintenant il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que notre Dieu, il maîtrise les choses. Pierre, tous les autres, ils ne captaient rien de ce qui s'est passé, je vous le dis franchement. Et nous aussi, on aurait été à leur place, on n'aurait rien capté. Là, c'était un affrontement. Si on peut parler d'affrontement, il n'y a pas d'ennemi devant Dieu. Le diable, il sait où il va. Il connaît sa perte. Mais il sait que quelquefois, nous, chrétiens, on peut être ignorants de certaines choses. C'est pour ça que sa méchanceté est telle que, bien qu'il sache là où il va, il veut entraîner un maximum de croyants avec lui. Parce que les autres les appartiennent déjà. Lui appartiennent déjà. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il s'acharne sur les églises. C'est pour ça qu'il s'acharne sur les chrétiens. C'est pour ça qu'il nous empêche, par exemple, de lire la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu veut rectifier le tir. Oh, les petits ados, hier, disaient, mais c'est vrai. Et à plusieurs reprises, certains ont dit, mais ouais, mais c'est vrai, quand je me mets à lire la Bible, voilà, c'est là que l'assoupissement arrive. C'est vrai que quand je me mets à lire la Bible, mes pensées, et tous rigolaient sur leur visage. Parce que ce sont des réalités, c'est spirituel. On a besoin d'avoir une hygiène de vie, une hygiène spirituelle pour lire la parole de Dieu coûte que coûte. Quelles sont nos priorités ? On parle d'un lavement et le lavement se fait avec la parole de Dieu. L'eau pure de la parole est capable de laver nos cœurs mais aussi notre esprit de toute pensée mauvaise. Alors je nous pose cette question ce matin. Quel genre de pensées sont ensemencées dans ton esprit, mon frère, ma sœur ? Qu'est-ce que tu amènes avec toi ? Qu'est-ce que tu véhicules ? Qu'est-ce que tu cultives ? À l'égard de ton frère, à l'égard de ta sœur, à l'égard de ton prochain, à l'égard de ton voisin, à l'égard de ton ennemi ? Quel genre de pensée que tu cultives ? On a besoin de rectifier le tir. Vous savez ce que dit la Bible ? Allez, quelques proverbes. S'il y a un livre à lire dans la Bible, c'est le livre des proverbes. Si on veut être plus sage, il faut lire ce livre merveilleux. Proverbes chapitre 12, verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Proverbes chapitre 15, verset 26, un autre passage, notez-le tout simplement. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Je n'ai pas le droit ce matin de lever mes mains et louer le Seigneur si mon esprit n'est pas en phase avec la parole de Dieu. Si je ne suis pas en harmonie ou en accord avec X ou Y, la Bible dit, avant de déposer ton offrande à Dieu, va d'abord te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. C'est pour ça qu'on a entendu ce don spirituel ce matin. C'est une question de pardon. Pardonne, mon frère, ma sœur, et ne perds plus de temps. Et n'arrive pas à ce point de non-retour qu'a vécu Judas, qu'à un moment donné, le diable, parce que nous-mêmes, nous lui avons laissé une porte entrouverte, il a pu maintenant s'accaparer de nous. Et faire des choses qu'on regrette par la suite, parce que vous avez compris que Judas a regretté. Et il s'est pendu. Ça, c'est la fausse repentance. On a besoin de se repentir. Seigneur, ce matin, sonde-moi. Purifie mon cœur. Permettons à Dieu d'extirper toute pensée mauvaise que le diable a pu semer en notre esprit. Et au contraire, frères et sœurs, cultivons de bonnes pensées selon ce qui est écrit. Et là, je vous encourage à prendre avec moi Philippiens chapitre 4, verset 8. On en a bientôt terminé. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Regardez ce qu'il est dit. On était d'accord avec les ados hier pour reconnaître que la Bible, c'est un miroir aussi. Et quand on prend le temps de lire et méditer la parole de Dieu, on se retrouve, on se reconnaît. Il nous permet de nous examiner. Le matin, on vient dans la salle de bain et puis on se rase pour certains, on se pouponne pour d'autres, on se parfume pour d'autres, etc. Mais c'est important ce moment devant le miroir. Il est important d'être aussi devant le miroir de la parole de Dieu. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 8 points, 8 filtres pour analyser nos pensées. Et si nos pensées ou notre esprit n'est pas conforme à ce que nous venons de lire, il faut vite rejeter ces choses. Vous savez, quelquefois les pensées, elles arrivent, elles ne préviennent pas. Ce n'est pas là qu'on pêche. On pêche lorsqu'on laisse ses pensées fermenter au point de descendre au plus profond de notre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne nous culpabilisons pas ce matin. Si l'apôtre nous invite à cultiver de telles pensées, c'est que c'est possible. C'est juste une question de volonté. En conclusion, que dire? Nous venons de voir certains éléments qui peuvent polluer notre esprit. On a commencé par énumérer quelques faux raisonnements lorsqu'on commence à se dénigrer, à se rabaisser, mais aussi lorsqu'on a des faux raisonnements par rapport aux autres. Mais ce sont aussi également les mensonges du diable par lesquels il essaye de nous perdre. Ce sont autant de souillures que nous avons besoin de laisser Dieu extirper de notre esprit. Et dans ce combat, là encore, Dieu se propose de nous aider par la puissance du Saint-Esprit. Et je crois même que ce matin, il désire purifier encore, sanctifier nos cœurs et nos esprits. Prions ensemble le Seigneur. C'est indéniable, tu es là. Ma prière, c'est que, et moi le premier, nous ayons un saint respect de ta parole. Quand je pense que tout un peuple a connu tellement de réformes, juste à l'écoute de ta parole, du temps d'Ézéchias, quand ils se sont mis même à pleurer en redécouvrant les vérités de ta parole. Toi-même, tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin encore, c'est avec douceur que nous recevons ta parole. Et nous la prenons comme une eau pure qui va purifier encore nos esprits, nos âmes et même nos corps. Seigneur, nous te demandons de t'occuper de nos pensées. Et tu as tout prévu pour que nous soyons plus que vainqueurs et nous aider à sanctifier notre esprit. Tu as même prévu le casque du salut pour que nos pensées soient protégées et que l'ennemi n'arrive même pas, Seigneur Père mon Dieu, à remettre en cause notre salut. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Parce que nous avons cru en son sacrifice, parce que nous nous sommes repentis et convertis. Et rien ni personne ne peut nous déstabiliser de cette position qui est la nôtre, fils et filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Seigneur, toi seul tu connais les desseins qui peuvent se trouver dans les esprits, dans les cœurs. Ce qui est, Seigneur Père, mon Dieu, en gestation dans l'esprit, Seigneur Père, de mes frères et de mes sœurs. Ceux, malheureusement, Seigneur Père, mon Dieu, ce qui vient malheureusement de l'ennemi, comme une semence, car nous n'ignorons pas non plus les desseins de l'ennemi qui cherche à nous écarter de la simplicité de l'évangile comme nous l'avons lu. Et je te prie, Seigneur, de consumer, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas ta gloire, toute forme de mauvaise pensée au nom de Jésus-Christ. Nous lions, nous stoppons l'activité de l'ennemi dans nos esprits au nom de Jésus-Christ. Afin que nos pensées, Seigneur Père, soient en harmonie, en conformité avec ce que tu nous demandes au travers de ta parole. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Seigneur Père, mon Dieu, toutes les résolutions, tous les desseins diaboliques soient brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les résolutions dans les cœurs, dans les esprits, soient, Seigneur Père, mon Dieu, démantelées et mises au grand jour de ta lumière. Et que nous puissions marcher par ton Esprit Saint. Seigneur, donne-nous à permettre à ce que notre esprit soit fortifié par ton Esprit Saint, afin que nous ne soyons point influencés ni par notre âme, et encore moins par notre corps. Seigneur, donne-nous à être des hommes et des femmes spirituels. C'est pour cela que tu veux sanctifier notre esprit. Sanctifie-nous ce matin. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les desseins de l'ennemi soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Et comme tu nous l'as demandé ce matin, qu'il y ait le pardon, Seigneur, qui soit manifeste. Qu'une puissance de pardon puisse permettre les réconciliations. Seigneur, Père mon Dieu, les grâces, Seigneur, puissent tomber. Et que le Saint-Esprit ne soit plus attristé parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu passes dans les rangs et tu fais ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta douceur. Merci pour ta grâce. Alléluia.